RFI à Paris, il est 8h44, tout de suite c'est la revue de presse. Revue des journaux africains avec vous, Alban Le Prince, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
À la une, parti en Russie pour devenir pharmacien, il finit par combattre pour Moscou en Ukraine.
Le journal Le Monde à Paris nous raconte l'histoire de Dossé, un jeune Togolais de 27 ans, originaire d'un village proche d'Anéo. Élève brillant, il obtient une licence d'histoire à l'université de Lomé. Cherche ensuite à partir pour gagner plus de sous, il tente alors sa chance au Canada, puis en France, mais aucun pays ne l'accepte. Aucun, sauf la Russie. Il part donc étudier à l'université d'État de Saratov, mais en février, plus de nouvelles. Sa famille s'inquiète et ce n'est qu'un mois après qu'il réapparaît dans une vidéo YouTube interviewée par un Ukrainien. Il porte une combinaison bleu marine et se contente de hocher la tête pour signifier qu'il comprend son interlocuteur, décrit le quotidien français. Il raconte les derniers mois, ses policiers qui lui font signer un contrat en russe, langue qu'il ne sait pas lire, avant d'être conduit dans un camp à Donetsk pour y suivre une formation militaire et ensuite être envoyé sur le front où il sera capturé. Le Monde n'a pas réussi à s'entretenir avec Dossé, mais son frère Michel l'assure, il n'est pas allé faire la guerre volontairement. Même quand il était au Togo, on lui a proposé de rejoindre l'armée et il a dit non, Dossé n'est pas un militaire. Alors pourquoi là-bas il accepterait? À quel prix? Le prix, on le connaît pour les jeunes hommes recrutés, 200 000 roubles, soit plus de 2130 euros pour se battre pour un pays qui n'est pas le sien et risquer sa vie sur le champ de bataille.
Facebook et Instagram peut-être bientôt fermés au Nigeria.
La confrontation vient de prendre une tournure critique, écrit le Financial Afrique, alors que Meta, la maison mère des deux réseaux sociaux, s'est vue infliger une amende de près de 290 millions de dollars et menace maintenant de les fermer dans le pays. Un bras de fer qui soulève des questions fondamentales sur la souveraineté numérique et la protection des consommateurs dans les économies émergentes, selon le journal. Le Nigeria compte 30 millions d'utilisateurs Facebook, 12 600 000 pour Instagram et 51 millions pour WhatsApp. Alors qui gagnera ce combat qui implique d'un côté un pays qui insiste sur le respect des lois et de l'autre un géant du web qui menace de perturber des millions de personnes et de petites entreprises? Une chose est sûre, dit le Financial Afrique, l'issue de ce bras de fer façonnera inévitablement le paysage de la régulation numérique pour les années à venir.
À la veille du début du conclave à Rome pour élire un nouveau pape, à Kigali, le New Times se félicite de la présence d'un cardinal rwandais.
Antoine Kambanda, 66 ans, archevêque de Kigali, c'est la première fois que cela arrive. Cette inclusion est plus que symbolique, affirme le journal. Elle témoigne de la diversité croissante de l'Église catholique et du rôle essentiel que joue l'Afrique dans l'avenir de la foi, ajoute-t-il, tout en plaidant pour l'élection d'un pape réformateur, audacieux, qui s'attaquera aux abus, à la corruption et qui fera entendre la voix du Sud. Le New Times attend donc beaucoup du futur souverain pontife et conclut « L'Église et le monde méritent un pape pour demain et non pour hier ».
God protect Ibrahim Traoré.
Ce serait le nom de la dernière chanson de Beyoncé publiée il y a peu sur Internet. Problème ? Eh bien, c'est faux. La chanteuse actuellement en tournée ne l'a jamais chantée et pour cause. C'est une intelligence artificielle qui l'a créée. C'est ce que nous rapporte Jeune Afrique. La naissance de vraies fausses chansons à la gloire d'eux. Ainsi a-t-on vu fleurir les titres Victory d'un avatar de Gims et même un prétendu duo entre Drake et Shakira, Tribute to Burkina Faso and Captain Ibrahim Traoré officiel 2025. Ce qui effraie le plus sans doute, c'est la crédulité de certains internautes. Brave fille d'Afrique et d'Amérique, commente l'un. Hommage bien mérité à notre capitaine, réagit un second. Mais comme le dit Jeune Afrique, difficile de savoir si ces posts ne sont pas eux-mêmes rédigés par des manipulateurs avant de conclure. Un outil artificiel qui profite à un camp finit par servir l'autre.
Merci Alban Le Prince, c'était la revue des journaux africains. À tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Selon le ministère russe de la Défense, la Russie a été visée cette nuit par plus d'une centaine de drones ukrainiens. Moscou, notamment, a été pris pour cible et une dizaine d'aéroports russes ont été largement perturbés ces dernières heures. En Allemagne, c'est aujourd'hui, dans les prochaines heures, que le chef de file des conservateurs, Friedrich Merz, doit être désigné chancelier et remplacer officiellement Olaf Scholz. Le portrait du nouveau chancelier allemand à écouter dans le prochain journal à 9h dans notre dossier préparé par Pascal Thibault. Friedrich Merz Merz qui, comme le veut la tradition, réalisera son premier déplacement en France. Il sera demain à Paris. Demain également, le président français Emmanuel Macron va recevoir la visite du président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, sa première visite en Europe. De nouvelles négociations de trêve n'ont plus d'intérêt. Voilà ce que déclare ce mardi un haut responsable du Hamas à nos confrères de l'AFP, et cela au lendemain de l'annonce par le gouvernement israélien d'une nouvelle campagne militaire dans la bande de Gaza qui prévoit la conquête du territoire. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, lui, s'est dit hier alarmé par ce plan. L'Iran condamne fermement ce mardi les frappes israéliennes menées hier sur des infrastructures houthies à Hodeïda au Yémen. Réponse de l'État hébreu aux frappes menées par les rebelles yéménites sur l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv. C'était dimanche. Et puis, de nouvelles frappes ce mardi sur Port-Soudan pour le troisième jour de suite. L'aéroport de la ville qui abrite le siège provisoire du gouvernement soudanais a interrompu son trafic à la suite d'une frappe au drone. On y revient dans nos prochaines éditions et on parle du Soudan tout de suite. La Cour est manifestement incompétente pour juger la demande du Soudan. Voilà la réponse de la CIJ, la Cour internationale de justice, à l'accusation portée par Khartoum. Le Soudan avait attaqué en mars dernier les Émirats arabes unis, les accusant de complicité de génocide contre la communauté massalite du Darfour occidental, et cela en raison du soutien des Émirats aux rebelles des FSR, les forces de soutien rapide. Réaction ce matin sur notre antenne de notre invité Marc Lavergne, coordinateur du ancien coordinateur du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU pour le Soudan, aujourd'hui directeur de recherche émérite au CNRS. Il répond à Christophe Boisbouffier.
Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Comment réagissez-vous au rejet de la plainte du Soudan contre les Émirats ?
Elle est un petit peu attendue. Je pense que la Cour reste dans son champ de compétences en émettant évidemment quelques considérations humanitaires qui ne sont pas directement de son ressort, mais elle est extrêmement prudente. Elle manque d'éléments très factuels. Mais également, l'enjeu est important puisqu'il s'agit d'incriminer les Émirats arabes unis dans leur soutien, plus ou moins avéré quand même, aux forces de soutien rapide qui affrontent l'armée soudanaise.
Est-ce qu'on peut parler d'une victoire diplomatique des rebelles des FSR contre l'armée soudanaise ?
Oui, c'est un petit peu un soulagement. Mais enfin, les forces de soutien rapide en question, elles ont sur le terrain effectivement des moyens d'affronter l'armée. Elles ne s'avouent pas vaincues, même si elles ont perdu la capitale. Mais elles sont soutenues par la plupart des pays africains qui entourent le Soudan et surtout par les Émirats arabes unis qui sont mus par l'intérêt qu'ils trouvent à exploiter les richesses aurifères du Soudan.
Alors, la Cour s'est déclarée incompétente pour des raisons juridiques, parce que lorsque les Émirats ont adhéré en 2005 à la Convention sur le génocide, ils ont précisé qu'ils ne reconnaîtraient pas à la Cour le droit d'arbitrer un différend entre deux États.
Oui, c'est-à-dire que finalement, ils ont signé, mais ils ne se sont engagés à rien.
Mais malgré cette déclaration d'incompétence, la Cour précise qu'elle est profondément préoccupée par la tragédie humaine qui se déroule notamment dans le Darfour occidental.
Oui, nous le sommes tous, j'imagine, mais je ne pense pas que ça ait un effet pratique ni même des conséquences juridiques. Bon, il faut pour ça qu'il y ait des preuves qui soient amenées par des experts sur place pour qualifier de génocide les exactions qui se déroulent entre le Darfour occidental, la région en particulier qu'habitent les Massalites à la frontière du Tchad et qui provoquent des centaines de milliers de déplacés au Tchad même.
Est-ce que cette plainte du Soudan n'a quand même pas eu le mérite de mettre en lumière les massacres de Massalites à El Geneina il y a un an par les forces de soutien rapide ?
Oui, en effet, c'est une pierre de plus apportée à l'édifice. Mais je pense que les forces de soutien rapide sont parfaitement identifiées comme étant des prédateurs, des pillards, des gens qui ne cherchent pas à fonder ou à remplacer un gouvernement, mais juste à se payer sur la bête parce que ce sont des gens qui sont eux-mêmes victimes de changements climatiques, de problèmes de toutes sortes qui font que, comme dans tout le Sahel, il y a une descente de ces nomades au détriment des sédentaires.
Est-ce qu'on peut parler de nettoyage ethnique de la part des FSR contre les Massalites dans l'ouest du Darfour ?
Oui, très clairement. C'est un nettoyage ethnique qui a une raison d'être, c'est-à-dire de s'approprier les terres de ces cultivateurs que sont les Massalites pour se sédentariser précariser et trouver des sources finalement de survie autres que l'élevage des chameaux en périphérie du désert.
Et est-ce qu'on peut parler du coup de tentative de génocide ?
Oui, mais ça n'est pas un génocide, je dirais, sur une base de différences religieuses ou de différences idéologiques. Il s'agit d'un génocide vraiment pour s'approprier des terres. Il n'y a pas de haine particulière des Rizegates en particulier, qui sont à la manœuvre avec les forces de soutien rapide contre les Massalites qui sont installés là en tant que sultanat partagé entre le Tchad et le Soudan.
2 ans après le début du conflit, est-ce que vous en voyez une issue ?
Non, par épuisement d'un des deux combattants éventuellement, mais on voit qu'il y a des soutiens de chaque côté. Le soutien des Émirats Arabes Unis n'est pas le soutien de tous les pays arabes. L'Égypte soutient l'armée, d'autres pays riverains du Soudan, pour des raisons très diverses, soutiennent les forces de soutien rapide. On pense à l'Éthiopie par son animosité à l'égard de l'Égypte autour du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Et les pays comme le Kenya, l'Ouganda, le Tchad soutiennent également de façon plus ou moins directe les forces de soutien rapide. Ce qui est assez paradoxal puisque ce sont des gens qui n'ont pas de projet d'État. Et quant à la population elle-même, elle a beaucoup de mal à choisir entre la peste et le choléra que sont l'armée et les forces de soutien rapide.
Est-ce que vous croyez encore à une solution politique entre les deux belligérants ?
Je crois à une solution politique à partir du moment où les robinets qui alimentent ces deux belligérants seraient coupés. Il faudrait que la communauté internationale intervienne de façon vraiment déterminée et efficace là-dessus. Le combat s'arrêterait. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Soudan revienne à une transition démocratique soutenue effectivement et efficacement par les pays occidentaux. On est loin du compte.
Marc Lavergne, merci.
Le directeur de recherche émérite au CNRS, Marc Lavergne, il répondait à Christophe Boisbouvier. Maman, ce matin, vous nous dites qu'au Gondwana, à l'heure des réseaux sociaux, la politique a bien été obligée de se mettre à la page.
Oui, depuis quelque temps, on a l'impression que pour certains professionnels de la politique, tu sais, ces gens qui n'ont d'autre gagne-pain que la politique. On a donc l'impression que pour certains hommes politiques, eh ben, la démocratie, ce n'est plus un homme, une voix, mais plutôt un follower, une voix, un like, une voix. Et oui, aujourd'hui, quand tu conseilles à un aspirant politique de cultiver son réseau de soutien populaire, eh ben, il te répond que c'est bon, c'est fait, il gère. Il t'informe qu'il a tissé sa toile dans tout le pays, sur le web, qu'il a des centaines de milliers de followers et que la moindre de ses publications sur Facebook, Twitter, Instagram fait des millions de likes. Et que tous les commentaires de ses internautes lui disent qu'il est l'homme dont le Gondwana a besoin et ils n'attendent qu'une chose, qu'il se présente aux élections pour sauver le pays. Aujourd'hui, certains hommes politiques de la très très démocratique République sont devenus des influenceurs. Tu connais les influenceurs, ces gens qui gagnent de l'argent en influençant les gens influençables. Ils te suggèrent quelle boisson énergisante boire, quelle crème de beauté utiliser, quel tissage brésilien choisir pour éclater le conseil des ministres avec ta chevelure. Les influenceurs veulent être invités partout, resto, hôtel, salon, voyage à Dubaï. Tu sais, Dubaï, la mecque des influenceurs, sans bourse déliée, parce que ce sont des influenceurs tout de même. Les influenceurs, ce n'est pas un homme, une voix, c'est un clic, une brique, un follower, du flous. Mais bon, et pour les hommes politiques influenceurs et pour les influenceurs tout court, il y a loin de la coupe aux lèvres. En effet, il ne faut pas confondre un influenceur du web et une star qui a de l'influence comme Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, avec leurs centaines de millions de followers. L'influenceur du web dit qu'il a de l'influence, alors que la star qui a de l'influence a vraiment de l'influence, mais elle ne le dit jamais. Pour les hommes politiques, c'était la même chose au début. Mais les choses ont changé aujourd'hui. Eh oui, pour les hommes politiques influenceurs, ce qui compte, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas changer la vie des gens. Non, ce qui compte, c'est les likes, les dislikes, les vues, l'engagement. Eh oui, en bien ou en mal, ils veulent juste qu'on parle d'eux. Et ça marche. Ils disent n'importe quoi, mais ça like, ça buzz. La terre est plate, ouais. Les vaccins rendent sourds, ouais. Je veux annexer le Groenland, ouais. Les OQTF au pôle Nord, ouais. Ce qui fait que lorsque tu entends un homme politique dire qu'il s'engage à ceci ou à cela, ne pense pas que ce n'est que des promesses comme d'habitude et que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Non, les promesses, c'est aussi de l'engagement, des likes, des vues, du buzz. Finalement, en politique, les influenceurs ont vraiment de l'influence, même si c'est sur les sondages qu'ils en ont. Et c'est ça qui est flippant. À demain.
À demain, Maman. Restez avec nous sur RFI dans un peu plus d'une minute, le journal. Et à la une, notre dossier du jour, l'Allemagne et son nouveau chancelier Friedrich Merz. Son portrait à suivre. Restez avec nous.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement. L'information quand vous voulez.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
quel mot de passe pour sécuriser ses données? Comment les choisir? Et surtout, à quelle fréquence?
Demain,
80 ans après la Seconde Guerre mondiale, qu'en reste-t-il dans l'enseignement, dans les lycées en Afrique?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Comment le conflit israélo-palestinien, l'attaque du 7 octobre, l'hécatombe de Gaza, percute l'intimité d'un couple en France? Elle est juive, il est breton, le ton monte. Peut-on aimer quelqu'un de très différent de soi? Et le thème du nouveau roman de Nathalie Azoulay, Toutes les vies de Théo.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.